au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 19 mars, j'espère que vous avez passé une bonne journée malgré cette foutue neige qui veut pas nous lâcher. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question des libéraux là, qui tombent à bras raccourcis sur la gestion des finances publiques de la CAQ. Geneviève Ashby sera avec nous. Elle est intervenante dans la démarche Agir ensemble du côté de Saint-Donat à Notre-Dame-de-la-Merci. Aussi Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec avec qui on va revenir sur le budget Girard. On va revenir également sur ce même budget Girard avec Hugo Valiquette, le directeur de la Troquel, la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière. Mais tout d'abord, chose intéressante, pour une 11e année consécutive, c'est à Québec là, qui vous invite à voter pour les pires routes de la région de Lanaudière là, via son site web. Bien, on fait ça aussi pour tout le Québec, là. C'est pas juste Lanaudière. La campagne qui a aucune prétention scientifique, mais elle met en lumière là, un problème qui est bien réel, l'importance d'avoir un réseau routier fiable et sécuritaire, un entretien réalisé par François Morin avec le directeur des affaires publiques de CAA Québec, Nicolas Ryan.
Mmh. Oui, ben c'est une 11e année là, qu'on fait ça chez CAA Québec, donc c'est d'inviter les citoyens à se prononcer sur quelle route serait la pire selon eux à travers la province. Donc, on invite les gens sur le site pyroute.com, pyroute au pluriel. Et c'est assez simple, ça va prendre quelques secondes à peine à voter. Et ce qu'on fait chez CAA Québec avec ces routes-là, les 10 qui vont être le plus souvent mentionnés, mais on s'engage à faire un suivi justement auprès là, soit du ministère des Transports et de la Mobilité durable ou des municipalités qui vont être nommées dans le palmarès pour savoir qu'est-ce qu'elles vont faire pour améliorer ces routes-là qui sont nommées année après année.
Au cours des dernières années, on n'a pas vu, heureusement ou malheureusement, de route lanaudoise dans le top 10 provincial. Par contre, au niveau régional, là, on se rend compte que la population participe puis qu'il y a plusieurs routes là, qui sont pointées du doigt.
Ben exactement. Là, donc ça demeure quand même justement un vote de popularité. Il faut que les gens se mobilisent là-dessus. Pour vous donner une idée, par le passé, là, il y avait une citoyenne à Montréal là, qui avait fait des campagnes, qui avait imprimé des carrément des tracts, qui faisait le tour de ses voisins pour qu'ils puissent voter. Cette route-là, aujourd'hui, le boulevard Gouin-Est est magnifique. Donc, en effet, il faut que les gens aient voté. Nous, ça nous permet de faire le suivi. Mais dans la Lanaudière, quand on regarde ce qui est sorti au niveau du palmarès plus régional, les gens semblent en avoir là, contre l'autoroute 640, dans le bout de Charlemagne-Terrebonne. On est aussi là, Laurent-Saint-Charles à Saint-Thomas, Laurent-Double à Saint-Lin-Laurentide. D'autres routes du ministère des Transports aussi, la route 348, l'autoroute 40, la route 131. C'est toujours des routes là, qui reviennent quand même année après année. Donc, certains citoyens là, nous offrent ces votes-là. Ça permet quand même de savoir un peu. Je vous dirais, le ministère, là, c'est pas un outil qu'ils détestent en soi. À l'occasion, ils vont aller le consulter. C'est pas avec ça qu'ils vont prendre leurs décisions d'investissement, je vous dirais. Mais ça donne quand même une idée. Vous savez, il y a tellement de routes à travers la province. Bien, ça permet quand même de savoir un peu là, si vous avez des problématiques dans différentes régions.
Évidemment, on le disait tantôt, c'est un sondage qui est ludique, mais est-ce que effectivement le ministère est sensible? Il y a eu effectivement des réactions là à certaines doléances de citoyens?
Bien, on a eu des critiques quand même, je vous dirais, dans les deux dernières années. Là, l'ancien maire de Gatineau qui disait là, qu'on était toxique pour les contribuables, qu'on faisait prendre des mauvaises décisions à certains conseils municipaux. La réalité, nous, comme je dis, on essaie de faire changer 10 routes par année. Là. C'est pas ça qui va changer l'ensemble des problématiques au Québec. C'est pas ça qui va régler le déficit de maintien d'actif au Québec, là, qui est au-dessus de 22 milliards de dollars. Cela dit, il y a certaines municipalités, je vous donne l'exemple d'une toute petite municipalité qui pourrait avoir un budget annuel, somme toute minime, qui se retrouve avec une grande problématique sur une de ces routes. Souvent, ces municipalités-là n'auront peut-être pas le financement requis là, dans leur budget annuel pour faire en sorte d'améliorer ce réseau routier-là. Et on a eu plusieurs fois le commentaire qu'un passage dans les pays routes à Québec, ça leur donnait un argument de plus lorsqu'elle a demandé des fonds au gouvernement. Puis l'exemple le plus frappant que je peux vous dire, c'était le député de Chauveau à l'époque. Il y avait le chemin traverse de Laval dans le bout de Lac-Beauport qui était à réparer. Ça avait été nommé, je pense, 2 ou 3 années de suite dans notre palmarès. Et le député de Chauveau avait carrément amené le palmarès à François Bonnardel, qui était le ministre des Transports à l'époque. Il a dit, là, François, ça suffit, là, mes citoyens sont fâchés contre cette route-là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Par magie, le budget a été débloqué à ce moment-là. C'est vraiment les pays routes qui ont fait en sorte que l'argent a été débloqué, ou c'était peut-être dans un plan quinquennal, ou du moins c'était prévu de le faire. La réalité, c'est qu'on a mis en lumière cette problématique-là. Et aujourd'hui, les citoyens de l'endroit, les camionneurs qui passent par là, ben, ils ont affaire à une route qui est plus belle, qui a été refaite, qui a eu du nouveau pavage, il y a eu du nouveau marquage qui a été fait au sol. et c'est plus sécuritaire aujourd'hui.
Une des pires routes dans la région a toujours été la route 131. Ça fait des décennies que les maires et même la population là, réclament des interventions à grand cri auprès du ministère des Transports. Vous l'avez mentionné dans les sondages là, au cours des... En fait, ça a ressorti dans les sondages CA au cours des dernières années. Faut croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui, et là je me permets un commentaire éditorial, qui n'entend pas le message.
Ben, faudrait, si les citoyens veulent se mobiliser puis voter en masse pour cette route-là, la montée dans le top 10, nous, on va s'assurer de faire le suivi. Comme je dis, on peut pas faire le suivi de l'ensemble des routes. Donc, année après année, là, dans les mêmes années du palmarès des P-routes, on avait plus de 20 000 votes qu'on recevait. Donc, c'était énorme. L'an dernier, on a eu un peu plus de 3 000 votes. Donc, c'est une campagne qui s'est un peu essoufflée, je vous dirais. N'en demeure pas moins que l'objectif, c'est pas tant justement de changer toutes les routes du Québec, c'est de faire parler aussi de la problématique des infrastructures routières. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Demain matin, on n'aura pas un meilleur réseau routier. Les investissements qui étaient requis depuis, je vous dirais, une cinquantaine d'années n'ont pas été faits. Donc aujourd'hui, on se ramasse à payer la facture de 50 ans d'inaction. Chaque gouvernement qui se succède vous dira, on est le gouvernement qui a mis le plus d'argent en ce moment dans les routes. C'est quand même vrai, lorsqu'on regarde certains montants qui sont alloués. N'en demeure pas moins, c'est insuffisant. Et le déficit de maintien d'actifs, ça c'est le montant d'argent requis aujourd'hui pour améliorer notre réseau, le rendre juste acceptable. Mais ce montant-là, il grandit d'année en année. Donc, il ne diminue pas, ce qui fait en sorte que nos routes, en fait, sont pires. Donc, pour nous, là, la question qu'on pose chez CA Québec, c'est et si les pires devenaient un jour les meilleurs, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment comme collectivité pour faire en sorte que les routes soient meilleures? Et j'ai envie de vous dire deux solutions qu'on propose. La première, c'est davantage d'entretien. Donc là, on le voit un peu plus. Il y a des budgets, là, dans le budget qui a été déposé cette semaine, qui sont alloués justement à l'entretien des routes. Et l'autre élément, c'est on avait posé la question à nos membres l'an dernier. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être faire une suspension temporaire de tout projet de développement routier jusqu'à temps qu'on règle les infrastructures existantes? Mais c'est 79 % d'appui qu'on avait à cette mesure-là, qu'on avait proposé là, dans un sondage d'opinion. C'est quand même très fort comme appui. Donc, est-ce qu'on doit laisser tomber certains grands projets, prendre cet argent-là, le mettre probablement en entretien, en réparation des routes actuelles? Ben, avec l'appui de 79 % des membres de CA Québec, je pense qu'on peut dire que c'est un appui qui est fort. Et qu'on aimerait ça que le gouvernement entende ce message-là.
Le directeur des affaires publiques de CA Québec, Nicolas Ryan, avec qui François Morin a parlé un peu plus tôt. Je vous rappelle que pour une 11e année, le CA Québec là, vous invite à voter pour les pires routes du Québec via son site web. Dans un moment, des réactions au budget du ministre Girard, réactions du milieu communautaire, également du milieu municipal.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2026. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Bonjour, c'est Kim de Chaillet Innocent. Chez nous, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 Boulevard Basse de Roque à Joliette, là où l'expertise rencontre la passion. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
CFNG.
Lanaudière PM. Communautaire.
Il est 16h15. Autre réaction au budget Girard d'hier, celle du directeur de la Troquel, la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, Hugo Valiquette, et comme ses collègues ailleurs au Québec, il croit que le gouvernement refuse encore de reconnaître l'importance du monde communautaire. François Morin lui a parlé un peu plus tôt. Il porte un jugement sévère là, quand même sur ce budget.
Ben en fait, c'est un gouvernement de fin de mandat, fin de régime, d'austérité. Puis, on regarde les investissements qui ont été faits pour le mouvement communautaire autonome et je dirais que c'est plus que décevant. D'autant plus que le gouvernement présente les investissements qui sont faits pour les organismes communautaires en additionnant les années. Donc, par exemple, il a annoncé hier dans les documents du budget que 100 millions de dollars est investi pour les organismes qui sont financés en santé et services sociaux. Sur le coup, le montant a de l'air important. 100 millions, c'est un investissement jamais vu. Mais quand on regarde dans les détails, ben, ce 100 millions-là, c'est 20 millions pour les organismes cette année qui va être récurrent pour les prochaines années. Donc, on dit, ben, pour 5 ans, ça représente 100 millions. Donc, pour 10 ans, 200 millions. Enfin, pour 20 ans, t'sais, on pourrait là, faire dire n'importe quoi aux chiffres. Et c'est vraiment ça qui est particulier dans ce budget-là, c'est de montrer des gros, gros montants. Par exemple, pour l'ensemble du mouvement communautaire, il annonce 257 millions d'investissements. Fait que quand tu regardes ça comme citoyen, on se dit « wow, mon Dieu, un gros travail de rattrapage ». Mais dans la réalité, quand on additionne les années, ça donne pas un portrait juste. Puis juste pour illustrer, là, je le sais que je suis technique en l'expliquant comme ça, mais c'est comme si on regarderait, par exemple, le salaire des députés dans un mandat de 4 ans. On sait qu'actuellement, c'est environ 140 000 $ de salaire pour un député annuellement. Mais c'est comme si je disais, ben, sur le mandat, les députés, ils gagnent 560 000 $. Je mens pas en disant ça, mais je donne pas un budget annuel, je donne pas un salaire annuel. Ben, c'est ce qu'ils font avec les chiffres du communautaire. Donc, on va les entendre dans les prochains jours annoncer des investissements majeurs pour le communautaire. Mais dans le fond, ces chiffres-là sont truqués parce que on parle d'addition sur les années. Je dirais, c'est ce qui me fâche le plus, moi, ce matin, parce que bon, tant mieux, il y a quelques légers investissements qui totalisent environ 32 millions de $ en santé et services sociaux, de l'argent pour les organismes en défense collective des droits. J'aurais aimé ça pouvoir dire que ça, c'est des bons coups, mais de la manière que c'est présenté, fait pour endormir les citoyens et citoyennes, ben, ça fait qu'on est encore plus fâchés sur le manque de reconnaissance de la part du gouvernement.
Ça vient donc ajouter à l'argumentaire que vous allez servir au cours des prochains jours, parce que là, évidemment, le mouvement de grève va s'enclencher, là.
Oui, absolument. Puis là, avec le mouvement le communautaire à bout, ben c'est sûr que là, il va y avoir des communications gouvernementales en disant on vous a entendu le communautaire, gardez le dernier budget, toutes les sommes qu'on a mis. Puis là, ben justement, dans les médias, il va y avoir une guerre de chiffres entre les chiffres du gouvernement qui sont majorés parce qu'ils parlent d'investissement sur plusieurs années, alors que c'est de la récurrence. Quand on augmente le budget d'un organisme, ben l'année d'après, il y a encore ces sommes-là pour continuer à faire dans le fond, la réalisation de sa mission. Mais on peut pas additionner des investissements sur des années quand c'est le même montant tout le temps. Ça va être vraiment, en tout cas, je le sais que ça va être difficile dans l'opinion publique de comprendre ces argumentaires-là. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est écouter les détails dans ce qu'ils vont dire. 257 millions de $ pour les 5 prochaines années. Ça veut pas dire que les groupes ont 257 millions à chaque année. C'est additionné à ce qu'on a ajouté cette année seulement, qui représente là, dans le fond, un 32 millions en santé et services sociaux, un 13,6 millions pour les organismes en défense collective des droits, et c'est tout. Donc, moi, en ce moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour les organismes en éducation, pour les organismes famille, pour les organismes en immigration, où les besoins sont criants, et il n'y a aucun ajout dans le budget pour ces organismes-là. Même chose pour les médias communautaires, c'est très difficile d'aller voir les budgets qui sont attribués. Donc, c'est pas un budget qui résout les enjeux du communautaire. Donc, je pense que ça va donner de la force aussi au mouvement de grève, d'interruption d'activité puis de mobilisation là, dans les 2 semaines qui s'en viennent.
Il y a une mesure annoncée dans le budget qui fait sourciller à peu près tout le monde. C'est ce 250 millions qui est réservé pour diverses utilisations non définies cependant par la prochaine personne qui va occuper le poste de premier ou première ministre au Québec.
Ben c'est énormément choquant, surtout que on dirait que c'est comme une prime à l'élection du chef de la CAQ, alors que les besoins pour la population sont immenses. Puis on n'est pas le seul secteur en ce moment à être déçu de ce budget-là. Donc ces primes-là, ces cadeaux-là pour une élection, dans le fond, d'un chef qui va être là pour très peu longtemps, on trouve que c'est pas rigoureux de la part d'un gouvernement. Et surtout, avec la quantité de crise qu'il y a actuellement, je pense entre autres au fait d'avoir annoncé 1000 nouveaux logements sociaux au Québec, quand on sait qu'on vit une des pires crises du logement actuellement. C'est vraiment pas de prendre en considération les réalités vécues par les citoyennes et les citoyens. Si on veut soutenir le Québec dans toutes ses communautés, ben évidemment, souhaitons que dans ce 250 millions-là, il y ait vraiment de l'argent structurant pour les organismes communautaires autonomes, puis pour les personnes qui ont été vulnérabilisées par les choix des gouvernements dans les dernières années. Souhaitons-nous ça. En même temps, je trouve ça déplorable que ça n'ait pas été fait hier dans le budget, surtout que le gouvernement connaît exactement la situation des organismes communautaires autonomes.
Bon, c'était la réaction d'Hugo Valiquette, le directeur de la Troquet, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, à ce budget Girard.
La Naudière PM. Affaires municipales.
Autre réaction, celle de l'Union des municipalités du Québec par la voix de son président et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Selon M. Tremblay, à qui François Morin a parlé, le gouvernement donne l'impression de pelleter vers l'avant une série de problématiques.
Guillaume Tremblay, un accueil plutôt mitigé, d'après ce que je comprends, de la part de l'Union des municipalités du Québec en regard du budget, parce qu'on évidemment, on avait des attentes. Il y a quelques pistes, je dirais pas de solution, mais il y a quelques pistes là, intéressantes, sauf qu'on est loin là, de ce qu'on avait demandé.
Écoutez, on l'accueille, comme on dit, de façon modeste, donc modestement, ce budget-là. Il faut le savoir, là, que le monde municipal, depuis longtemps, puis c'est une réalité, là. Si on n'agit pas, puis on ne change pas nos façons de faire au Québec, bien, on s'en va directement dans un mur. Puis j'essaie toujours de faire de l'éducation. Si on recule d'une dizaine d'années, le monde municipal, on est propriétaire de 60% des infrastructures municipales, des infrastructures publiques à travers le Québec. Donc, 60% de ce qui est public à travers le Québec appartient au monde municipal. Il y a 10 ans, on avait 10% de la portion des investissements du gouvernement du Québec qui venait directement dans les villes. Aujourd'hui, on est rendu à 4,2%, puis avec la légère augmentation qu'on a eue hier, on tombe à environ à 4,3%. Donc, on s'entend qu'il y a eu une petite tendance à la hausse. Vous allez comprendre qu'on revient jamais au seuil d'il y a 10 ans, malgré que les coûts ont explosé de façon faramineuse.
Et parmi les pistes quand même intéressantes aussi, là, on parle de logement abordable, mais on parle pas de logement social.
Tout à fait. Écoutez, on va attendre. Des fois, c'est dans les petits astérix qu'on voit tous ces détails-là. Mais maintenant, le gouvernement du Québec, logement abordable, logement social, le FAC qu'on appelle, donc on peut faire un peu de logement abordable et social. Donc, on va attendre de voir justement les petits détails. Mais tu sais, bonhomme Alain, mettons que vous enlevez les infrastructures, le reste, on est conscient que le gouvernement du Québec, disons pas dans des marges de manœuvre les plus ouvertes qui existent présentement. On se met pas la tête dans le sable, on en est totalement conscient. On voit nos écoles, ça fait partie de notre communauté, de nos communautés, puis ça, on en est conscient. Bon, ce serait attendu d'avoir une portion un peu plus grande. Maintenant, il y a un nouveau chef ou une nouvelle chef qui va arriver au niveau du gouvernement au cours du prochain mois, puis on a hâte d'entendre le discours d'ouverture du nouveau gouvernement pour justement sentir une tendance à la hausse des investissements qu'il va falloir mettre au niveau des infrastructures. Parce que là, on parle de nos tuyaux pour amener l'eau chez les citoyens. On parle de nos égouts. Ça commence à péter de partout, nos stations de pompage, nos stations d'épuration. Puis si on n'agit pas rapidement, je vous le dis, ça va être très difficile de revenir en arrière.
Bon, parlons-en justement du ou de la nouvelle chef de la CAQ. Le ministre Girard qui leur a quand même réservé un 250 millions, cet argent-là aurait pu servir à d'autres choses, parce que là, pour l'instant, on n'a aucune idée où ça va s'en aller.
Encore une fois, vous savez, ça, c'est des décisions du gouvernement. Je pense que le monde municipal l'aurait pris facilement, ce 250 millions-là. On aurait pu le prendre pour faire du logement, on aurait pu le prendre pour, par exemple, construire, mettre de l'investissement dans le transport en commun. On n'en a pas beaucoup parlé dans le budget du transport en commun, puis de la réalité financière du transport en commun. Vous allez voir, c'est une autre portion, c'est en 2028. Vous allez voir que ça va tomber de haut, là, le transport en commun, parce que s'il n'y a pas des grosses augmentations d'investissement, bien, ça va être des coupes de services massives, là, parce que c'est des sommes, des millions et des millions et des centaines de millions de coupures. Là. Donc, clairement, il va y avoir des choix de société qu'on va devoir faire. Bien, on le répète puis on le dit, là, le monde municipal, on est prêt à collaborer, puis il y a des façons rapides pour faire des économies au monde municipal. C'est tout dans les normes. Il y a des normes qui coûtent environ 1,5 milliard, milliard de dollars par année au monde municipal. Si vous me permettez, je peux même vous donner un exemple. Là. Une ville que je n'aimerais pas a fait l'acquisition d'un bâtiment patrimonial où il y avait des sœurs qui dorment à l'intérieur. Parce que le bâtiment a été acheté, donc une semaine avant, il y a des sœurs qui dorment à l'intérieur. La semaine suivante, la ville la jette pour faire dormir des itinérants au coût de 9 millions de dollars. Mais vu que c'est rendu un bâtiment municipal, la ville doit investir 30 millions de dollars à cause des normes sismiques, donc les tremblements de terre, pour faire dormir des gens à l'intérieur. Donc, une semaine auparavant, il y a des sœurs qui dorment dedans. C'est logique. Aujourd'hui, c'est une ville qui est propriétaire de ça. Il faut investir 30 millions de dollars. Pour nous, on trouve que c'est un non-sens.
Et faut-il le rappeler en terminant qu'il y a des sommes qui dorment du côté du gouvernement fédéral parce qu'il n'y a toujours pas d'entente entre Québec et Ottawa. Et ça, ça pourrait effectivement là, mettre un beau gros plaster sur le bobo.
Encore une fois, c'est le monde municipal qui est pris en otage. C'est ça qu'on trouve un peu triste et toujours être obligé de demander au gouvernement du Québec de s'entendre avec le gouvernement du Canada. Puis ça, c'est pas juste le Québec ou le Canada, c'est les deux ensemble. Les provinces canadiennes, la plupart, quand ils ont annoncé Maison Canada, ben les projets sont déjà sur la table, ça l'avance. Là. Nous, on sait pas quels projets vont être soutenus, on sait pas ça va être de quelle façon. Donc, le temps de préparer nos plans de vie, de soumissionner, de faire notre dépôt de demande au gouvernement du Québec, c'est pas demain la veille que ça va être fait. Ça fait qu'on demande le plus rapidement possible au gouvernement du Québec et du Canada de s'entendre.
C'était la réaction du maire de Mascouche et président de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, au budget d'Éric Girard. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça se corse à partir de Bourget, passablement dense jusqu'en Ribourassa. Là, c'est en raison des précipitations, la neige. Là, par la chute, on prend de la vitesse, traversée facile vers la rive nord. Repentigny, 40 direction est, un peu dense à partir de Brien et ce jusqu'à Valmont. Pont-le-Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 nord. Oh, c'est depuis le boulevard Henri-Bourassa à Montréal et ce jusqu'à environ un kilomètre passé la jonction avec la 440 du côté de Laval, là où c'est dense. Île-Saint-Jean, ça va pas si mal. Terrebonne, oui. Et puis, 25 secteur Mascouche, assez facile en ce moment. Pont-Sophie-Masson, un peu dense à l'approche. Sinon, la traversée est facile vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. Léger ralentissement secteur de la montée des Pionniers. Sinon, en direction ouest, c'est dense sur environ 500 mètres à l'approche de la montée du Mai. L'actualité dans un instant avec Pierre Jubinville.
Ada recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
Revivez le spectacle unique. Du 40e de CFNJ. Vous avez manqué la soirée grandiose du 17 janvier? Ben, manquez pas votre chance de réentendre tout ça. Le samedi 21 mars dès 15h dans Weekend Trad, revivez en version intégrale cet événement unique. Une quinzaine des plus grands artistes trad de Lanaudière réunis sur scène autour de Mathieu Marion, André Brunet, Francis Morin et Pierre-Luc Dupuis. Revivez ce spectacle unique.
Je suis fier de CFNJ.
Le samedi 21 mars dès 15h à CFNJ.
Excusez-la.
L'actualité de ce jeudi 19 mars en manchette. L'arrivée du printemps demain coïncide avec le retour du palmarès des pires routes. Déception après le dépôt du budget Girard et les libéraux dénoncent les baisses annoncées du nombre d'immigrants. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, c'est le temps d'inscrire la pire route au palmarès du CAA.
Pour une 11e année, Claude, les automobilistes sont invités jusqu'au 13 avril à identifier la pire route de leur région. Le directeur des affaires publiques du CAA Québec, Nicolas Ryan, souligne que ce sondage donne une idée des routes dans plus mauvais état.
Dans la Naudière, quand on regarde ce qui est sorti au niveau du palmarès plus régional, les gens semblent en avoir là, contre l'autoroute 640, dans le bout de Charlemagne-Terrebonne. On est aussi là, Laurent Saint-Charles à Saint-Thomas, Laurent Double à Saint-Lin-Laurentide, d'autres routes du ministère des Transports aussi, la route 348, l'autoroute 40, la route 131. C'est toujours des routes là, qui reviennent quand même année après année, donc certains citoyens là, nous offrent ces votes-là. Ça permet quand même de savoir un peu, je vous dirais, le ministère, là, c'est pas un outil qu'il déteste en soi, à l'occasion, il va aller le consulter. Ça.
Et puis le bilan du MTQ n'est pas vraiment rassurant.
Non, plus du tiers des structures du ministère ont un niveau très élevé de dégradation. C'est ce qu'indique le plan québécois des infrastructures. Le budget de la CAQ déposé hier à l'Assemblée nationale ajoute 5 milliards au PQI sur 6 ans, ce qui porte l'enveloppe à 167 milliards de dollars. Le gouvernement dit vouloir cibler les secteurs prioritaires et le Jonathan Julien, le ministre des Transports, a parlé de besoins immenses pour le maintien du parc immobilier et du réseau routier.
Pour le réseau routier, les sommes ont plus que doublé depuis notre arrivée et 88 % des montants que j'ai, moi, au PQI, c'est en maintien d'actifs. Donc, on est responsable. C'est beaucoup moins sexy que faire des nouveaux tronçons, élargir, faire des nouvelles voies, mais c'est la responsabilité qu'on prend comme gouvernement de faire plus de maintien d'actifs. C'est nécessaire, mais c'est beaucoup de bouchées à prendre parce qu'il y avait un grand retard qui avait été fait.
Mais c'est un lendemain de budget et, comme à l'habitude, Pierre, des déceptions un peu partout.
Oui, c'est le monde communautaire qui, on s'y attendait, est déçu des mesures d'aide annoncées par le ministre Girard. Ce n'est pas tant les montants accordés qui déçoivent, mais la façon dont c'est présenté à la population. Le directeur de la Trocal, Hugo Valiquette.
Ce qu'on vise finalement, c'est à enlever les contre-pouvoirs. Donc, par exemple, dans le mouvement communautaire, nous, on est reconnus pour pouvoir défendre les droits, pour pouvoir dire des fois au gouvernement, ben ce projet de loi-là a un impact sur tel type de citoyennes et citoyens. Et ça, c'est notre travail, on peut le faire. Il y a des organisations, la société civile, qui peuvent même décider d'aller jusqu'en cour des fois pour demander des avis juridiques. Ben là, ce projet de loi-là vise à enlever cette possibilité-là aux organisations qui ont du financement de l'État.
Il y a l'Union des municipalités, par la voix de son président et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui accueille de façon mitigée le budget Girard.
Il y a 10 ans, on avait 10 % de la portion des investissements du gouvernement du Québec qui venait directement dans les villes. Aujourd'hui, on est rendu à 4,2 %. Avec la légère augmentation qu'on a eue hier, on tombe à environ à 4,3 %. Donc, on s'entend qu'il y a eu une petite tendance à la hausse. Vous allez comprendre qu'on revient jamais au seuil d'il y a 10 ans, malgré que les coûts ont explosé de façon faramineuse.
Et la productivité va souffrir des baisses annoncées en immigration.
C'est ce que prévoit le Parti libéral, qui estime que ces baisses annoncées du nombre d'immigrants auront un impact sur la productivité. Le budget Girard est clair. La diminution du nombre d'immigrants va limiter les gains économiques du Québec. Louis Lacroix.
François Legault dit être fier de son dernier budget.
On laisse la maison en ordre.
Ça doit pas être très, très propre à la maison du premier ministre, malheureusement.
Le critique libéral Fred Beauchemin croit que la politique migratoire de la CAQ va se refléter sur le développement économique.
Il accepte le fait qu'il y a zéro croissance démographique au Québec.
Pour son collègue André Fortin, l'équation est simple.
Il y a moins de monde qui vont participer à la vie active, au travail au Québec, puis les gens qui vont y participer, ils vont être moins productifs.
Mais pour le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, il faut fermer la porte à une certaine catégorie d'immigration.
On vise pas à devenir l'Inde, on vise à devenir la Suisse. Hein, on est mieux d'être 9 millions de Québécois riches que 15 millions de Québécois pauvres.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et finalement, Pierre, la pression, plutôt là, sur le prix de l'essence, là, demeure forte.
Oui, on ajoute 2 cents par jour, donc le prix moyen est $1,82 dans la région. C'est encore dans la MRC Les Moulins, où l'essence se vend le plus cher, $1,86.9. Et il faut rappeler que le baril de pétrole tourne autour aujourd'hui des $98.
Merci Pierre Jubinville. Bonsoir. Il est 16h36.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. CFNG.
Et il y a des partenaires de divers milieux qui s'unissent en ce moment là, pour lancer sur les territoires de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci la démarche Agir ensemble, mobilisation collective qui vise à créer un filet de sécurité sociale plus fort autour des enfants et des familles. Et François Morin en a discuté avec l'intervenante porteuse du dossier, Geneviève Ashby.
Oui, dans un premier temps, je pense que pour monsieur et madame tout le monde là, qui nous écoute, ça serait bien qu'on réexplique là, qu'est-ce que c'est que la démarche Agir ensemble.
Oui, tout à fait. Dans le fond, dans le réseau de la santé, on avait une intention de réfléchir avec les milieux communautaires, avec les communautés, pas juste les milieux communautaires, les organismes, mais également les municipalités, les pharmaciens, les médecins, les GMF, tous les acteurs de la communauté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux rejoindre des clientèles qui sont en difficulté, des clientèles familles qui sont en difficulté, des enfants, des adultes et leurs parents. On reçoit des demandes de services en CLSC pour soutenir les familles. Il y a parfois des situations où on doit procéder à un signalement à la protection de la jeunesse. Puis il y a d'autres situations aussi qu'on n'arrive tout simplement pas à accompagner. Et c'était dans cette optique-là de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour collectivement on soit mieux, on soit d'avance, on soit vraiment proactif dans le repérage et l'accompagnement de ces familles-là en offrant un autre type d'accompagnement.
Et évidemment, la façon de s'organiser, ça demande l'intervention, là, vous l'avez mentionné en préambule, là, ça demande beaucoup d'interventions, beaucoup d'intervenants, et on parle de solidarité sociale dans le fond, là.
Tout à fait. On veut vraiment renforcer le filet social. On a débuté déjà un premier déploiement où on a réfléchi pendant plusieurs mois avec la collectivité de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. On l'a fait par la suite dans le pôle Brandon de la MRC d'Autré. Et hier, c'était le lancement pour Saint-Donat, pour qui aussi on a travaillé en comité de travail là, avec les partenaires clés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois au préalable pour bien réfléchir ensemble puis essayer de cibler c'est quelles situations qui sont difficiles pour tout le monde d'accompagner et d'aider et de faire un peu des simulations et de dire ben, dans quelle famille ça peut être pertinent d'interpeller cette démarche-là qui s'appelle Agir ensemble. Au final, on pourrait avoir un milieu scolaire, on pourrait avoir un comptoir vestimentaire, on pourrait avoir un pharmacien qui se préoccupe d'une situation, qui ouvre à la famille, aux jeunes, s'il y a 14 ans et plus, bien sûr, là, qu'il y a un nouveau service qui est disponible, qui s'appelle Agir ensemble. Et le but de participer à cette démarche-là, c'est qu'on n'est pas toujours en train de dire, ben voici tes difficultés, puis voici les services qui existent. C'est plutôt de dire, voici les services qui existent, qu'est-ce qui pourrait être utile là-dedans? Parfois, aider une mère en dépression postnatale passe pas nécessairement par un suivi en psychologie. Ça peut être aussi parce qu'elle participe à une cuisine collective. Elle brise son isolement, elle crée des relations, elle a des popotes de fête d'avance. Fait que c'est dans ce sens-là que ça devient créatif.
Est-ce que je comprends dans l'organisation, est-ce que je comprends bien que dans l'organisation justement de la démarche Agir Ensemble, c'est initié par le CIS ou il y a un mouvement collectif qui existe déjà et
Oui. C'est une très bonne question. En fait, les planètes se sont bien alignées du côté du réseau de la santé. Ministre Carman, à l'époque, souhaitait que partout dans les régions du Québec, on développe des Agir Ensemble en fonction des besoins des régions. Et il y avait aussi un grand intérêt de table de proximité dans les collectivités qui, elles aussi, s'étaient rassemblées pour dire on doit mieux prendre soin de notre population, 0-100 ans. Et donc, dans le même créneau, dans la même ambiance de ces années-ci, 2025-2026, on s'est tout simplement rejoint là avec des belles planètes en lignée. Et là, Agir Ensemble vise davantage les familles, donc des enfants, des adolescents, leurs parents, et éventuellement, ça va continuer d'évoluer probablement là, pour aussi les adultes, les personnes âgées et autres types de populations.
On comprend qu'il y a des familles en difficulté ou des individus en difficulté. Il y en a partout. J'imagine que la participation à Agir Ensemble doit se faire sur une base volontaire parce que c'est pas, il y a personne qui va être pointé du doigt, là.
Tout à fait, c'est vraiment volontaire. Puis des stratégies d'intervention qu'on utilise déjà dans nos suivis individuels, mais qu'on va pouvoir aussi partager collectivement entre intervenants de la communauté nos expertises. Des fois, ça peut être une demande qu'on fait à Agir Ensemble parce qu'à titre d'éducatrice scolaire, j'arrive pas à accompagner tel type de situation, puis j'aurais besoin d'échanger avec mes partenaires pour développer mon expertise. C'est le type de demande qu'on pourrait aussi recevoir. Ça serait pas uniquement en lien avec une famille. Et aussi, ça peut être un autre niveau de demande. Ça pourrait être en lien avec des enjeux de santé publique. Dans la région de Saint-Michel-des-Saints, on avait une inquiétude de la communauté sur la banalisation de la consommation d'alcool chez les adolescents. Donc ça, c'est un enjeu de la communauté qui nous a été demandé. Et là, on va pouvoir s'asseoir avec la santé publique, avec la municipalité, avec d'autres partenaires, la Maison des jeunes, les loisirs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de contrer cette banalisation-là? Puis Saint-Donat, ce qui ressortait tranquillement de part du milieu scolaire, c'est l'intimidation dans les cours d'école. Mais là, on parle de cours d'école primaire. Donc là, on aura probablement une activité, un atelier, une réflexion à avoir dans le cadre d'agir sur cet enjeu d'intimidation dans les milieux scolaires primaires.
En terminant, est-ce qu'il y a un canal de communication qui est en place pour justement permettre aux gens là, de lever la main, de dire ben, « j'aurais peut-être besoin d'aide ».
Oui, tout à fait. Dans le fond, ça part pas d'un individu directement parce que l'individu, il contacte le 811 là, qu'on connaît bien. Donc, Agir Ensemble, c'est que c'est une famille qu'on repère, qui justement n'arrive pas à aller chercher des services de la collectivité. Et nos partenaires s'engagent dans un formulaire là d'engagement pour aussi mettre de l'avant toutes les valeurs de cette démarche-là, de bienveillance, de transparence, de miser aussi sur les forces de nos usagers. Puis souvent, c'est de dire, ben peut-être que vous n'avez pas envie d'adresser votre principale problématique, mais qu'est-ce qui serait pour vous acceptable d'adresser? Des fois, c'est de commencer par l'enjeu qui est le moins souffrant pour au moins initier quelque chose, donner de la confiance, puis voir que ben, finalement, il y a des choses qui sont possibles, puis par la suite, arriver à l'enjeu qui est le plus critique.
C'est François Morin qui s'est entretenu un peu plus tôt avec Geneviève Ashby. Elle est intervenante et porteuse du dossier concernant Agir Ensemble du côté de Saint-Dominique et Notre-Dame-de-la-Merci. Il est 16h43. Dans un moment, Jacques Plante.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse d'inviter la population au Salon Rendez-vous commerce présenté par Desjardins du 19 au 22 mars prochain aux Galeries Joliette. Venez magasiner autrement alors que des entrepreneurs en construction, entreprises de services, de santé et beauté, de décoration, de loisirs et plusieurs autres vous attendent dans le cadre de la plus grande foire commerciale de la région. Le Salon Rendez-vous commerce tient à remercier ses précieux partenaires Aspirateur Saint-Charles, Bessette Créateur de confort, Production Méga Animation, Promutuelle Assurance Lanaudière, Chico Joliette et CFNJ.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous qu'un denturologiste conçoit aussi des protecteurs buccaux sur mesure? Étant confectionné avec un système d'aspiration, il permet une protection accrue des dents et des lèvres, en plus de réduire les risques de fractures de la mâchoire et de commotion cérébrale. Étant conçu pour votre bouche, il permet de rester bien en place,
ce qui procure un meilleur confort. Il est même prouvé que vous aurez une meilleure oxygénation de vos poumons. Vous pratiquerez donc votre sport sans désagrément, tout en vous protégeant.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra-Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219, poste 3 ou visite leur page Facebook.
Bonjour, c'est Kim de Joliet Nissan. Pendant l'événement Maîtriser toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 388 $ plus taxes par mois sans aucun comptant initial. Chez Joliet Nissan.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-Vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Allô, allô, Jacques.
Salut, Claude. Bonne fin d'après-midi. On va parler de Ne bouge pas.
D'argent.
De budget. Et c'est ce qui me reste dans mes poches du budget qui a été déposé hier, mesdames, messieurs.
Oui. Les libéraux qui tombent à bras raccourcis sur la gestion des finances publiques de la CAQ et le député Frédéric Beauchemin, il va pas avec le dos de la cuillère en utilisant même un langage assez coloré.
Ben, il dit qu'ils ont totalement cochonné les finances publiques. Faut comprendre un peu la montée de lait des libéraux parce que, rappelle-toi, en 2018, quand le gouvernement Legault est arrivé au pouvoir, les libéraux avaient laissé quand même des finances acceptables dans les coffres de l'État.
Mmh.
Ils sont partis avec de l'argent. Et au fil des ans, ils l'ont semé aux 80.
Mais François Legault disait hier qu'il avait laissé la maison propre en ordre, tout ça. Mais semble-t-il que selon Frédéric Beauchemin, chez François Legault, pas très, très propre chez lui. Je ne sais pas s'il a visité sa maison, mais...
C'est une façon d'interpréter, parce que moi, quand j'étais adolescent, pour moi, ma chambre était super bien placée. Ma mère me disait toujours de me ramasser.
Oui.
Mais moi, je vivais dedans, puis ça allait bien.
Ouais.
Tu sais, moi, ce que j'aurais fait, c'est sûr que je suis pas au gouvernement, là, je peux dire n'importe quoi, mais j'aurais pas présenté de budget hier. J'aurais peut-être fait ce qu'on peut appeler une énoncé économique, des intentions, mais de laisser...
T'aurais attendu d'avoir un nouveau ou une nouvelle chef en place.
Exactement, parce que ce qu'on a présenté hier, d'ailleurs, c'est pas grand-chose, là, entre toi et moi, un. Deux... Ça se peut que Mme Fréchette ou M. Drainville, là, qui sera élu...
Déchire carrément.
...va décider de refaire le tableau au complet.
Parce qu'oublions pas qu'on s'en va en élection, là, prochainement.
Oui, c'est ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des remaniements.
Parce que c'était pas un budget à saveur électorale, là.
À part de l'argent qu'ils ont laissé pour le prochain chef ou la prochaine chef, là. Mais tu sais, il reste une chose... Mettons que je suis au gouvernement, je décide de ne pas présenter ce budget-là, l'opposition va chialer. Avez-vous quelque chose à cacher? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, t'en présentes un, ils chialent pareil. C'est la job des partis d'opposition, et Claude, ils la font bien.
Oui. Oui,
c'est leur job.
Dans le cas de Frédéric Beauchemin, au Parti libéral, c'est une belle job de dénonciation parce que là, on sait très bien que les libéraux espèrent prendre le pouvoir et pour les libéraux, ben François Legault laisse pas le gouvernement dans un... En fait, les finances publiques dans un très bon état actuellement et les libéraux ou le Parti québécois vont avoir à reprendre ça.
Exactement. Et hier, j'entendais, après le... j'ai suivi suivi le budget, évidemment, là, c'est très intéressant. Tu sais, il disait, le déficit est beaucoup moins grand. Non, non, mais il est quand même là. Et moi, quand j'entends M. Legault, là, beaucoup de respect pour lui.
Attends, dis 10 milliards, le déficit, là.
Oui, oui. Quand j'entends M. Legault dire, et là, je le cite, on est dans un contexte économique difficile, difficile, comme il dit, là. On bat le reste du Canada en économie. Je m'en sac, M. Legault. Combattre le reste du Canada. On habite au Québec, là. Mm-hmm. C'est au Québec que ça se passe. Et là, il dit, on a un déficit qui est plus bas que les autres provinces. Moi, quand on se compare à tout le monde, j'ai de la misère avec ça. Et c'est au Québec, cependant, ça, il l'a pas dit, qu'on paie l'essence le plus cher, par exemple.
Oui.
Ça, il l'a pas dit. Mm-hmm. Hein? Fait que, tu sais, j'écoutais Mme Guilbeault qui disait, ah, je suis contente, on a eu de l'argent pour les municipalités. Mettons que c'est...
Attends un peu, on a eu la réaction...
C'est du maquillage un peu, là.
On avait justement, d'ailleurs, tout à l'heure, la réaction de Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, puis président de l'UMQ.
L'UMQ, oui.
Ça semble pas faire son affaire trop, là.
Ben, c'est du maquillage. C'est-à-dire que, tu sais, c'est du saupoudrage, comme on dit, là.
Oui.
Hein? On met, là... C'est comme quand il bouche un trou de poule.
On va le réécouter, Guillaume Tremblay.
OK.
Il y a 10 ans, on avait 10 % de la portion... des investissements du gouvernement du Québec qui venaient directement dans les villes. Aujourd'hui, on est rendu à 4,2 %, puis avec la légère augmentation qu'on a eue hier, on tombe à environ à 4,3 %. Donc, on s'entend qu'il y a eu une petite tendance à la hausse. Vous allez comprendre qu'on revient jamais au seuil d'il y a 10 ans, malgré que les coûts ont explosé de façon faramineuse.
C'est ça, Guillaume. Faites des miracles, Guillaume. C'est ce qu'on demande aux municipalités, de faire des miracles, là. Parce que de plus en plus, tu remarques ça, là, de par les années, on donne dans le cours des municipalités.
Oui!
Occupez-vous de ci, occupez-vous de ça, mais l'enveloppe budgétaire,
et
elle change pas.
Il faut rappeler que les municipalités ne peuvent pas faire de déficit.
Oui, puis il y a une loi qui a été votée.
Exactement, pense, exactement. Hein, mémoire, oui, oui. Oui. Ils peuvent pas faire de déficit. Alors, les municipalités, c'est bien beau pelleter dans leur cours, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça, là?
Eh oui.
C'est ça. Coupe dans les services.
Mais si tu peux pas faire de déficit, tu fais quoi? Tu taxes plus ton monde.
Ben oui.
C'est une façon. Fait que t'es taxé au municipal, t'es taxé au provincial.
Tu taxes plus tes citoyens ou encore tu coupes dans les services.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Mais si tu taxes, là, tu sais, dans le fond, on a trois paliers que tu peux être taxé. Municipal, provincial, fédéral.
Ouais.
Tu sais, ça va bien en tabarnouche, là.
Exactement.
Fait que, tu sais, dans le fond, tu regardes ça, le budget d'hier, c'est pas grand-chose. Anyway. On a beau parler de la valse des millions, là, ici et là, quand tu commences à décortiquer, ça avance pas plus. Et comme je le disais tantôt, l'autre, j'ai l'impression, la vague impression, parce que on peut pas dire que c'est un budget. Moi, je pars pas en campagne électorale avec ça, là.
Mm-hmm.
Me pète la gueule.
Là aussi, il y a eu d'autres réactions rapidement. Parti oui. québécois qui réagit aussi. Mais,
Parti québécois, tu sais, ce qu'on a parlé souvent, c'est des promesses qui ont été avancées puis qu'il n'y a rien qui s'est passé, finalement. Je sais que moi, je voyais tantôt réaction du PQ et aussi de... Oui, c'est ça, le PQ disait, parlait d'intérêt collectif, mais plutôt d'intérêt électoraliste. Mais encore là, M. Paradis, du PQ, moi, je partirais pas avec ce budget-là en campagne électorale. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des
retouches,
ramifications.
Des retouches,
oui. Oui, exact. S'ils veulent aller chercher quelques votes, il va falloir qu'ils nous donnent du nanane. J'aime bien la réaction de Mme Gazal.
Québec solidaire.
Québec solidaire, qui dit, quand on regarde, là, elle parle évidemment du logement, tout ce qui est le côté des services sociaux. Puis encore une fois, on pense aux hôpitaux, la Maisonneuve-Rosemont, pour nommer celle-là, mais il y en a plein d'autres.
Tiens, avec la broche, rappelons-le.
Exactement, que les gens travaillent dans des climats, autant pour les bénéficiaires que les gens qui travaillent là, les infirmières, le personnel, travailler dans une cabane à moineaux.
Mm-hmm. Moi, j'en reviens pas. On investit dans le stationnement, on commence par le stationnement.
Oui, c'est ça, mais moi, j'en reviens pas.
Sûrement, en tout cas.
C'est une question de santé. Mm. Ces gens-là ont besoin de travailler dans un milieu qui est propre, puis à toutes les fois que je vois ça, je n'en reviens pas. On est en 2026. Souvent, je me pince et je me dis, ben pourtant, c'est vrai. C'est vrai ce que je vois.
Et pas un cent pour le centre hospitalier régional de la Naudière.
Ah non, non. Ils vont entendre que ça craque encore à d'autres places avant de mettre un plaster.
Ben oui, c'est ça.
Ça, c'est des nids de poules qu'on bloque.
Merci, Jacques.
Salut. Regardez mes sous, là.
Oui, oui. Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission d'aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. On est en congé. Demain, vous aurez l'occasion d'être en très bonne compagnie, cependant, avec Ricky D. Et manquez pas Nicolas Bellemare qui s'amène pour vous présenter le 5 à 7 trad directement du salon Rendez-vous Commerce.
commerce situé aux Galeries Joliette. Et je vous donne rendez-vous lundi. On sera là 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Portez-vous bien. Ciao.